France Inter.
Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1804, Bonaparte et l'exécution du duc d'Enghien. Il est 2h du matin le 21 mars 1804, lorsque le duc d'Enghien, petit-fils du prince de Condé, enlevé 5 jours plus tôt sur ordre de Bonaparte et emprisonné à Vincennes, est conduit dans les fossés du château. Là, à sa grande stupéfaction, 16 gendarmes, alignés, l'arme au pied, l'attendent. Ce n'est qu'à ce moment qu'on révèle au duc que le tribunal, réuni une heure plus tôt, l'a condamné à mort et que le jugement est à exécuter de suite. Le condamné a juste le temps de couper une mèche de ses cheveux et de la glisser dans une enveloppe pour la femme qu'il aime et, sans l'assistance d'un prêtre, il est amené devant le peloton. On tire. Sous la salve, criblée de balles, le duc d'Enghien s'écroule. Ce procès expéditif et cette exécution choqueront. C'est plus qu'un crime, c'est une faute, aurait dit Fouché. Tandis que chez les royalistes, le jeune duc, mort à 32 ans, deviendra vite un martyr de leur cause. En revanche, c'est avec satisfaction que Bonaparte, le lendemain, apprend la nouvelle. La voie est enfin libre pour proclamer l'Empire.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Emmanuel de Varesquiel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française et de l'Empire. L'épisode de la mort du duc d'Enghien a fait couler beaucoup d'encre depuis plus de 200 ans. Celle des écrivains et des mémorialistes, bien sûr, comme Chateaubriand, mais aussi celle des graveurs et des peintres, sans parler plus tard des cinéastes. Comment expliquer cet intérêt pour l'exécution du duc d'Enghien ?
Parce qu'il a 32 ans, que c'est un vaincu de l'histoire, et qu'il tourne très rapidement à la figure romantique du jeune prince au destin tragique. Et cette exécution nocturne dans les fossés de Vincennes a donné lieu à des peintures absolument magnifiques où les artistes jouent sur les clairs-obscurs. Enfin, tout ça correspond à une vision romantique qui est doublée par une volonté politique que l'on retrouve dès 1814 avec la Restauration et la montée sur le trône de Louis XVIII, le propre oncle du duc d'Enghien, celui qui était le frère cadet de Louis XVI. Et donc, il y a cette espèce de montée en puissance, d'organisation, de cette martyrologie royaliste dont Enghien est une figure dominante. Parce qu'il est jeune, parce qu'il est prince,
parce qu'il est beau,
parce qu'il est fidèle, parce qu'il est beau et parce qu'il est un guerrier. Et que, ne l'oublions pas, pendant 10 ans, il a combattu aux côtés de son grand-père, le prince de Condé, sur les bords du Rhin, contre les armées de la République, aux côtés de cette armée de Condé, qui était le dernier bastion, si vous voulez, de résistance du côté de l'émigration à la République, qui venait d'être proclamée en septembre 1792.
Il a très peu vécu en France, finalement, ce duc d'Enghien.
Non, parce qu'il quitte la France avec son grand-père et son père, le duc de Bourbon, tout de suite après la prise de la Bastille, et puis après la dissolution du corps de Condé, de quelques milliers de combattants, il va s'établir dans l'électorat de Bade, de l'autre côté du Rhin par rapport à Strasbourg, pour une raison qui tient, et c'est aussi un élément de sa légende, à ses sentiments pour sa maîtresse qui était Charlotte de Rohan et qui, elle, habitait à Strasbourg. Donc il y a toute cette dimension amoureuse, de la passion amoureuse, qui rentre aussi en ligne de compte dans la fabrication de ce modèle et de ce mythe princier qu'incarne le duc d'Enghien.
Alors, l'histoire que je vais raconter donc, commence le 10 mars 1804, quand le royaliste Georges Cadoudal vient d'être arrêté et que Bonaparte apprend qu'un complot se prépare pour le tuer. Pouvez-vous nous rappeler le contexte, Emmanuel de Varesquiel, pour Bonaparte et pour la France ?
Alors, le consulat et puis l'Empire vivent dans l'obsession, littéralement, du complot anglo-royaliste.
Là, on n'est pas encore dans l'Empire.
Non, on n'est pas encore dans l'Empire, on est à la veille de l'Empire, mais cette obsession a des raisons d'exister. Cette tentative d'assassinat de Bonaparte, que vous allez retrouver en 1804, c'est déjà l'attentat de la rue Saint-Nicaise en décembre 1800, qui a failli réussir. Donc, ces attentats, ils sont récurrents. Et donc, on vit dans cette peur-là. Et il est probable que les réactions et les raisons politiques qui vont faire que Bonaparte va mettre la main de façon parfaitement illégale par ailleurs sur le duc d'Enghien tiennent à quelque chose qui relève de la vendetta ou de la contre-vendetta corse. C'est-à-dire, on veut ma peau, j'aurai leur peau. Et puis, après, il y a toutes les manipulations et les différentes versions qu'on a données de cette grande conjuration dont le duc d'Enghien était extérieur, qu'on a appelé la conjuration ou le complot Cadoudal, Moreau, Pichegru. Cadoudal étant ce chef chouan qui a toujours été opposé à la République, puis au consulat, et puis deux grands chefs militaires de la Révolution, Pichegru, le général Pichegru, qui est passé au royalisme, et Moreau, qui est un peu, je dirais, l'adversaire du point de vue de l'aura militaire, le vainqueur de Owen Lyndon. Donc il y a cette concurrence. Moreau, en réalité, n'est jamais véritablement rentré dans le complot, même si probablement il était au courant de ce qui se passait. Et donc, avec l'assentiment du gouvernement anglais et la fin de cette très, très éphémère paix d'Amiens franco-anglaise qui ne va durer qu'un an et qui s'arrête en 1803, on va envoyer par Dieppe un certain nombre de conjurés chouans, royalistes, donc à Cadoudal, dès le mois d'octobre 1803, pour tenter le coup décisif, c'est-à-dire l'assassinat de Bonaparte.
Emmanuel Varesquiel, je propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, 1804, Bonaparte et l'exécution du duc d'Enghien, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Mélanie Péclat.
Des complots. Chaque jour, ma police en découvre de nouveaux. Ce sont les Anglais, ces serpents, qui financent les traîtres et les royalistes. Ils sont déterminés. Mais Cadoudal, enfin, a été arrêté. C'était le plus dangereux. Il a avoué qu'il attendait l'arrivée d'un prince de France pour lui remettre le pouvoir après m'avoir enlevé. Enlevé ? Après m'avoir éliminé, oui. Mais nous ne sommes pas sortis d'affaire. D'abord, qui est ce prince ? On ne le sait pas. Et puis, par son prestige, Cadoudal, même emprisonné, reste une menace. Quant aux Bourbons et à ce prince, ils se croient intouchables. Je vais leur montrer ce qu'il en coûte de s'en prendre à moi. Je ne suis pas un petit Corse ni un usurpateur comme ils le prétendent. J'ai versé le sang et j'en répandrai. Il faut qu'ils le sachent. Je suis la Révolution française.
10 mars 1804. Le premier consul, Napoléon Bonaparte, relit les notes que sa police lui remet quotidiennement. Il est résolu à mettre fin aux multiples complots que ses hommes découvrent chaque jour. L'arrestation, la veille, du redouté chef chouan Georges Cadoudal, en plein Paris, l'amène à convoquer à sa résidence de Malmaison les deux autres consuls, Cambacérès et Lebrun. Doivent les rejoindre son chef de la police, Joseph Fouché, irremplaçable mais peu fiable, et le ministre des Affaires étrangères, Talleyrand. L'aide de camp de Bonaparte, son fidèle Savary, vient lui annoncer l'arrivée de Talleyrand. Impétueux, brusque et balourd, mais dévoué corps et âme à Bonaparte, Savary, comme beaucoup de Français, rêve de le voir devenir monarque.
Tu as installé mon ministre boiteux dans le salon ?
Comme vous l'avez ordonné, citoyen premier consul. Vous avez l'air soucieux.
Même arrêté, Cadoudal m'inquiète.
Souhaitez-vous que je m'en occupe ?
T'en occuper comment ?
Je le mets hors d'état de nuire, dès que vous l'exigez.
Nous ne sommes pas sur un champ de bataille, Savary. Nous dirigeons les affaires de l'État. Le problème, c'est que Cadoudal ne révélera les noms de ses complices à aucun prix. Il va falloir les débusquer nous-mêmes. Et ils sont innombrables.
Quels qu'ils soient, il leur faudrait pour vous nuire marcher sur le cadavre de mes gendarmes qui ont l'honneur de vous protéger. Et sur le mien.
Nous frapperons avant.
Oui, comme un aigle. Comme un aigle impérial.
Nous ne sommes pas empereurs.
Et pourtant, vous avez bâti un empire. Et le peuple le veut. Nous le voulons tous. Il ne tient qu'à vous.
Savary, dans la lourde tâche qui est la mienne, je sais pouvoir compter sur des hommes comme toi.
Le moment venu, tiens-toi prêt à m'aider, à faire ce qu'il y a de mieux pour la grandeur de la France et pour l'Europe, mais pas avant.
Ma loyauté et ma fidélité vous sont acquises pour toujours.
Mène-moi à Talleyrand et veille à ce que personne ne nous dérange.
Tu ne comprends pas grand-chose, mais tu m'es fidèle, c'est vrai. Tout le contraire de ce diable boiteux.
Alors, qu'en dites-vous ?
Nous n'attendons pas les deux éminents consuls, Cambacérès et Lebrun. Ils connaîtraient ainsi mon sentiment, et moi, le leur.
Votre loyauté à leur égard vous honore. Bon, qu'en dites-vous ?
Et qu'à Douda l'arrêter, le danger pourrait sembler éloigné, voire conjuré. Mais ce complot est toujours d'actualité.
Mais encore.
Cadoudal est le bras armé de l'Angleterre. Elle est à la manœuvre, parce qu'elle a peur. La guerre civile dans l'Ouest est terminée, après des années de massacres et de déchirements. Vous avez ramené la concorde religieuse et la paix extérieure. La France est aujourd'hui forte en Europe, sans les Bourbons. Et ça, l'Anglais ne le supporte pas.
À votre avis, qui est ce prince auquel Cadoudal comptait remettre le pouvoir ? Le comte de Provence ? Le comte d'Artois ?
J'imagine assez mal les deux frères du dernier roi s'impliquer dans une telle entreprise. L'aîné n'est guère véloce, et le cadet est plus préoccupé de ses amours que d'exploits guerriers. Un autre nom revient régulièrement dans les rapports qu'on vous remet chaque jour. Vous ne l'avez pas remarqué ?
Le duc d'Enghien ?
Petit-fils du duc de Condé, chef d'une armée qui a combattu la France et peut recommencer, pensionné par l'Angleterre.
Oui, mais issu d'une troisième branche, après les Bourbons directs et les Orléans, donc loin du trône.
Mais prince de France, et descendant du grand Condé. Le duc d'Enghien est jeune, courageux, brillant, vaillant soldat. L'idole des royalistes qui trouvent Provence faible et Artois ridicule. Le profil idéal pour une restauration avec changement de branche dynastique.
Et contrairement aux autres qui sont loin, à Londres ou à Varsovie, d'Enghien est à pied d'œuvre. À seulement 4 lieues de la frontière de l'Est.
Un élément qu'on peut retourner et dont on peut faire une force.
Continuez.
Je vous ai transmis un rapport qui indique que le duc d'Enghien reçoit chez lui de nombreux traîtres. Il est à quelques heures d'Offenbourg où se concentrent les émigrés. De là, ils peuvent rapidement rejoindre Strasbourg et les monarchistes déjà rentrés en France. Au nord, la communication est aisée avec l'Angleterre. À l'est, c'est la Suisse et les services anglais d'espionnage. D'ailleurs, leur chef, l'ambassadeur Drake, annonce aussi dans sa correspondance l'arrivée d'un prince français.
J'avais remarqué tout cela. Vous évoquiez une force ?
Ils veulent passer à l'action ? Eh bien, précédez-les. Montrez aux ennemis du gouvernement que sa modération à leur égard n'est pas une faiblesse, que le premier consul n'est pas là pour préparer le retour des Bourbons, et qu'il peut les frapper, où qu'ils soient.
Je ne crains personne, et je suis prêt à verser le sang pour sauver la France, et la République.
Alors sévissez contre vos ennemis. Ils vous craignent, mais vous craignent-ils assez ? Si la justice oblige de punir rigoureusement, la politique exige de punir sans exception, partout.
Partout ? Par exemple, nous pourrions aller chercher le duc d'Enghien, qui se croit à l'abri en territoire neutre, et le faire transférer à Paris, où il avouerait être au centre d'un complot qui veut m'éliminer ?
L'idée, en effet, me paraît bonne, et conforme aux intérêts du pays et de son gouvernement.
Seriez-vous prêt, monsieur le ministre des Affaires étrangères, à assumer avec moi cette violation de souveraineté d'un État indépendant ?
Les cours européennes savent bien que Napoléon Bonaparte se situe dans un espace diplomatique révolutionné.
Je ferai donc ainsi. Nous irons chercher le duc d'Enghien où il se terre. Venez, je vais en informer Cambacérès et Lebrun.
Votre loyauté à leur égard vous honore.
Mmh. Quatre jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 mars 1804, le général Ordener et ses hommes franchissent le Rhin. À 4 heures du matin, à Ettenheim, 200 dragons entourent la maison du duc d'Enghien, se saisissent de lui, de tous ses papiers et de tous les autres occupants. Ils repassent le Rhin à 9 heures et arrivent à Strasbourg dans la soirée. Le 18 mars, à 1h30 du matin, on laisse à peine au duc le temps de s'habiller avant de le mettre dans une voiture qui prend la direction de Paris, conformément aux ordres du premier consul.
Monsieur le ministre.
Oh, général Savary, votre chef a un besoin urgent de vos services.
Qu'il ordonne et j'exécute.
Nous connaissons tous votre attachement au premier consul et votre talent pour précéder ses désirs. Vous allez être d'une importance primordiale pour lui. Votre journée va être longue. Il va vous charger du sort du duc d'Enghien, qui sera jugé au château de Vincennes. Si d'aventure la peine requise devait être d'aller retrouver ses ancêtres, qu'il y retourne dès ce soir ferait les affaires de tous, et d'un en particulier.
Le premier consul ?
Vous êtes un esprit fin, général. Vous savez qu'il a toute confiance en vous. Au revoir.
Savary, voici l'arrêté qui ordonne la comparution du ci-devant duc d'Enghien devant la commission militaire. Elle se réunira à Vincennes ce soir, dès qu'il y arrivera. Murat, en tant que gouverneur de Paris, en nommera formellement les membres. Voici la liste.
Ce sont d'excellents colonels que vous avez désignés là. Et le général Hulin, pour la présider, est un très bon choix.
Mais les papiers trouvés chez le duc ne prouvent pas sa relation avec Cadoudal. Il faut que la commission établisse ses liens. Dès ce soir.
C'est bien compris.
Toi, Savary, tu assureras le commandement de la Légion de gendarmerie et celui du château dans sa totalité. Le général Harel est chargé d'accueillir le duc et de le faire comparaître devant la commission.
À vos ordres.
Tu seras présent quand le duc arrivera à Vincennes. Tu t'assureras que la commission rende un verdict. Je te confie la mission de veiller aux intérêts de la France.
Je sais le danger que fait peser sur votre personne le duc d'Enghien.
C'est bien, Savary. Fais ce qu'il faut faire ce soir.
Comme vous l'ordonnez.
L'affaire s'annonce bien. Les Bourbons et l'Europe entière vont comprendre que je suis plus que tout décidé à préserver les intérêts du gouvernement de la France. Ma légitimité vaut bien la leur. Elle la vaudra, en tout cas. Je vais en parler à Joséphine.
Mais qui a réclamé cela ?
La France. Ma politique l'exige. En étant intransigeant dans cette affaire, je pourrai ensuite faire preuve de clémence. Et mon honneur aussi l'ordonne.
Ton honneur réclame d'envoyer tes soldats forcer une frontière ? Se saisir en pleine nuit d'un homme désarmé ? Ce ne sont pas là des manières d'homme d'honneur, mais celles de soudard.
Je pensais que tu serais heureuse d'apprendre que j'ai mis en échec un comploteur. J'ai dû être naïf.
C'était Cadoudal la tête du complot, et vous l'avez arrêté.
Cadoudal attend ce prince. Lui n'est qu'un paysan qui prépare le terrain pour les vieilles perruques.
Mais tu te rends compte ? Tu as fait enlever, comme le dernier des brigands, le petit-fils du prince de Condé.
Et que m'importe qu'il soit le fils de celui-ci ou de celui-là. Tu sais, je sens l'influence de ta dame d'honneur, madame de Rémusat, dans ses propos.
Mais non.
Tu défends un comploteur ? Qui a porté les armes contre la République ? Qui a été et est encore à la solde de l'Angleterre ? Et qui, oui, veut me tuer et abattre tout ce que nous avons fait ?
Je ne peux pas approuver cette façon de faire.
Suis-je donc un chien qu'on peut assommer dans la rue ? Aimer meurtrier des êtres sacrés ? On m'attaque au corps. Je rendrai guerre pour guerre.
Que va-t-il se passer maintenant ?
Cet homme sera jugé par une commission militaire qui décidera de son sort.
Mais qu'est-ce que tu veux ? Réinstaurer la terreur en France ?
Il sera jugé par une commission.
Une commission militaire qui juge un prince kidnappé ? On sait ce que ça veut dire. Tu comptes devenir pire que Robespierre ?
La commission ? Bon, tu n'entends rien à la politique.
Ne pars pas. Écoute-moi. Le juger ainsi est inutile, injuste et sûrement illégal.
Les femmes doivent demeurer étrangères à ces sortes d'affaires. Je n'aurais pas dû t'en parler.
Napoléon !
Le 20 mars 1804, vers 6 heures du soir, le duc d'Enghien descend de la chaise de poste qu'il a amenée au château de Vincennes. Pâle, fatigué, vêtu d'une redingote vert olive et coiffé d'une casquette à double galon d'or, cet aristocrate d'1m70, svelte, à la figure ovale et bien faite, aux yeux gris et aux cheveux châtains, est pris en charge par le général Harel. Le commandant d'armes du château de Vincennes découvre le mystérieux prisonnier sur lequel il lui a été ordonné de veiller personnellement. Il le mène à son appartement.
Soldat, laissez-nous seuls.
Ma foi, quelle confortable cellule.
Je suis le général Harel, commandant du château de Vincennes. Vous avez fait un long voyage. Permettez-moi de vous inviter à dîner.
J'aime beaucoup Vincennes. J'ai été élevé dans les environs du château. Mon ancêtre, Saint-Louis, rendait la justice sous un chêne tout près. Mais j'imagine que vous le savez, et que ce n'est pas pour cette raison qu'on m'a enlevé et conduit jusqu'ici.
On vous la dira plus tard.
Eh bien, malgré votre mutisme, en remerciement de votre hospitalité, je vous inviterai bien volontiers à la chasse, si on me le permet. Je jure de ne pas tenter de m'échapper.
Je dois cependant vous poser quelques questions.
Ah, tout de même. Je vais peut-être enfin comprendre les raisons de ce traitement si particulier, et qui me déplaît beaucoup, je dois vous l'avouer.
Nous allons d'abord consigner vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance.
Louis-Antoine Henri de Bourbon, duc d'Enghien, né le 2 août 1772 à Chantilly. J'ai 31 ans.
Quand avez-vous quitté la France ?
Le 16 juillet 1789. 15 ans bientôt. Avec mon grand-père le prince de Condé, mon père, mon parent le comte d'Artois, frère du roi, et ses enfants.
Qu'avez-vous fait depuis ?
La guerre contre la Révolution, au sein de l'armée de mon grand-père, comme commandant de l'avant-garde.
Vous êtes passé en Angleterre, et cette puissance ennemie vous accorde un traitement ?
Non, je n'y suis jamais allé. L'Angleterre m'accorde un traitement, c'est exact. Je n'ai que cela pour vivre.
Avez-vous une correspondance avec les princes français émigrés là-bas ?
Naturellement, et notamment mon grand-père. Mais je ne l'ai pas vu depuis près de 10 ans, tout comme mon père.
Quelle est la nature de vos relations avec les conspirateurs ?
Vous parlez de Pichegru, Dumouriez, ce genre d'homme ? Je vais être franc avec vous. Voir des gens de mon rang accepter cette guerre en frac avec des mercenaires opportunistes provoque en moi écœurement et dégoût. Les tentatives d'assassinat sont pour moi des crapuleries. Je n'ai jamais vu ces individus. On m'a certes rapporté qu'ils avaient essayé d'entrer en contact avec moi, mais je n'ai jamais donné suite.
Vous vous dérobez. Je parle de Cadoudal, évidemment.
Le fameux Georges ? Eh bien, pas davantage. Je vous le dis, ses manières me répugnent.
Vous affirmez ne pas participer à des conspirations ?
Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais faisons les choses simplement. Donnez-moi votre plume, je vous prie.
Tenez.
Merci. Je fais avec instance la demande d'avoir une audience particulière du premier consul. Mon nom, mon rang, ma façon de penser et l'horreur de ma situation me font espérer qu'il ne se refusera pas à ma demande.
Alors que la nuit avance, le duc d'Enghien s'endort dans l'appartement du gouverneur. Le général Hulin, qui vient de lire le compte-rendu de son interrogatoire, s'apprête à réunir la commission quand l'aide de camp de Bonaparte entre dans la salle.
Général Hulin, je tenais à vous saluer avant que vous ne présidiez cette audience.
Général Savary, nous sommes honorés d'être sous la garde de l'aide de camp du premier consul.
Il attache énormément d'importance à cette affaire et compte que vous mènerez parfaitement les débats.
Oui, les conditions sont un peu inhabituelles, vous le reconnaîtrez.
Mais adaptées à l'urgence de la situation et à sa gravité, oui. Il s'agit d'un complot contre la France et contre son chef.
Bien sûr, bien sûr. Mais justement.
Quoi donc ?
Je viens de lire le compte-rendu de l'interrogatoire. Le prévenu demande à être entendu par le premier consul en personne.
Eh bien ?
Peut-être pouvons-nous sursoir à siéger afin d'en référer au premier consul ?
C'est hors de question. Vous avez lu l'arrêté du gouverneur Murat ? Il prescrit de juger sans désemparer. Ce sont ses propres mots. Votre bras ne doit pas trembler. Votre détermination à rendre la justice sera votre meilleure arme. Je resterai derrière vous pendant l'audience. Vous n'y voyez pas d'inconvénient ?
C'est une demande du...
Oui.
Oui. Bien sûr, mais nous n'allons pas être formalistes au-delà du raisonnable. Restez. Je vais ordonner d'aller chercher l'accusé.
À 2h du matin, des soldats réveillent le duc d'Enghien et l'emmènent dans la salle où siège la commission, convoquée spécialement pour l'interroger et le juger. À la lueur des chandeliers, le duc répond avec une noble assurance aux questions du général Hulin.
Oui, pour la 100e fois, j'ai fait la guerre au gouvernement républicain, pour mon roi et pour mon Dieu, afin de soutenir les droits de ma famille et de mon rang.
Et vous niez toujours avoir eu connaissance du complot tramé par l'Angleterre, étendant au renversement du gouvernement de la République ?
Avec la même force.
C'est peu crédible. Votre détermination à combattre la France s'est-elle estompée ?
Me croire adepte des complots et des assassinats, c'est mal me connaître. C'est me faire insulte. Cette manière d'agir est tellement contraire à mon rang et à ma naissance que je m'étonne que vous ayez pu m'en croire capable.
Vous n'avez aucun lien avec Cadoudal et sa conspiration ?
Non seulement je ne suis en rien mêlé à des manœuvres apparemment ourdies contre le général Bonaparte, mais je suis en plus dans l'ignorance la plus absolue à leur sujet. Je n'en connais ni les auteurs, ni les buts.
Ne dites-vous pas cela pour protéger vos complices ?
Je le dis parce que je suis un soldat, pas un spadassin. En revanche, je reconnais, je revendique même avoir effectué une démarche auprès de Sa Majesté le roi d'Angleterre pour prendre du service dans son armée pour la nouvelle guerre. Ma naissance et mes opinions me rendent à jamais l'ennemi de votre gouvernement.
Ce sont là des aveux lourds de conséquences. En mesurez-vous la portée ?
Je ne dissimule pas qu'un Condé ne peut rentrer en France que les armes à la main. Je persiste. Ma naissance, mon opinion me rendent à jamais l'ennemi de votre gouvernement.
Prenez garde. La commission ne pourra pas ignorer votre position.
Une commission qui siège alors que je n'ai pas de défenseur ? Il n'y a pas de débat, pas d'avocat, pas de plaidoirie. Vous n'avez trouvé aucun document qui me contredise ou me confonde, et pour cause. La seule pièce, tant à charge qu'à décharge, que la commission a produite, c'est l'arrêté du gouvernement, me traduisant devant elle.
Nous ne sommes pas en conseil de guerre, et la commission est libre de sa procédure. Par ailleurs, je vous le répète, pesez bien vos mots. Les commissions militaires jugent sans appel.
Je le sais, je n'ignore pas le danger que je cours. Je renouvelle la demande que j'ai déjà effectuée par écrit. Je désire seulement avoir une entrevue avec le premier consul, d'homme à homme, de soldat à soldat.
La commission va délibérer et vous informera de son verdict. Emmenez-le. Nous allons commencer. Vous pouvez vous retirer, général.
Bien sûr. Ah, j'allais oublier. En quittant la Malmaison, le premier consul m'a confié ceci. Faites entendre aux membres de la commission qu'il faut terminer dans la nuit, même si la sentence, comme je m'en doute, est la condamnation à mort. À plus tard, général.
À plus tard.
Sitôt que le duc d'Enghien, les gardes et Savary sont sortis, la commission délibère.
Messieurs, après cette audience, estimez-vous que Louis-Antoine Henri de Bourbon, duc d'Enghien, est coupable d'avoir porté les armes contre la République française ? Levez la main. Coupable à l'unanimité. D'avoir offert des services au gouvernement anglais ? Coupable. De s'être mis à la tête d'un rassemblement d'émigrés ? Coupable. D'être l'un des fauteurs et complices de la conspiration tramée par les Anglais contre la vie du premier consul ? Coupable. Sur la question relative à l'application de la peine. La peine de mort, en réparation des crimes d'espionnage et d'attentat contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, adoptée à l'unanimité des membres de la commission. Nous pouvons maintenant faire entrer le général Savary.
La peine de mort.
Oui.
Que rédigez-vous ?
J'écris au premier consul pour lui exprimer le vœu du condamné d'avoir une entrevue avec lui. La commission l'a également approuvé à l'unanimité.
Donnez-moi votre plume et votre feuille. Votre affaire est finie. Maintenant, cela me regarde. Ah, général Harel, venez. J'ai ici la sentence. C'est la mort. Vous êtes chargé d'aller chercher le duc et de l'emmener dans les fossés du château. Pour plus de commodité, j'y ai déjà fait creuser une fosse. Je prépare un peloton de 16 gendarmes.
À cette heure-ci, vraiment ? Dans les fossés ?
Il ne faut prendre aucun risque. Imaginez qu'une balle atteigne un passant. C'est l'heure à laquelle les premiers citoyens partent travailler.
Que dois-je dire au duc ?
Rien. Vous lui lirez la sentence devant le peloton d'exécution. Adieu, général.
Bon. Si les affaires de l'État l'exigent...
Nous sortons du château par les fossés. Où me menez-vous, général? Qui sont ces soldats?
C'est un traquenard.
Je dois vous lire ceci. Au nom du peuple français, la commission militaire spéciale a reconnu Louis-Antoine Henri de Bourbon, duc d'Enghien, à l'unanimité, coupable des crimes contre la France dont il a répondu et le condamne à l'unanimité à la peine de mort.
Mais pourquoi me dire ça en ce lieu?
Nous sommes là pour exécuter la sentence.
Vous allez faire ça maintenant? Ici?
Rassemblez tout votre courage, monsieur.
Mais je voudrais voir le général Bonaparte et lui parler.
Cela ne se peut pas.
Mais... alors, tout est fini? Y a-t-il un prêtre?
Non. J'en suis désolé. Nous n'avons pas le temps.
Êtes-vous homme d'honneur, monsieur?
Oui.
Alors prenez cette lettre que je viens d'écrire. Remettez-la ainsi que cette mèche de cheveux et cet anneau à la princesse de Rohan-Rochefort. C'est ainsi. Sachez, messieurs, qu'il est dur de mourir ainsi de la main de Français.
Au même moment, en pleine nuit donc, Hulin et Savary se retrouvent par hasard à la sortie du château de Vincennes.
Vous êtes encore là, général?
J'attends ma voiture, qui n'a pas pu entrer dans la cour intérieure. Ce vieil édifice n'est pas très pratique.
Il a toutefois bien des avantages.
Mais qu'est-ce que c'est? Non.
Eh bien quoi? Vous avez déserté les champs de bataille depuis si longtemps que le bruit de la mitraille vous effraie?
C'est le duc d'Enghien? Mais nous n'avons pas autorisé l'exécution. Seul le gouverneur de Paris a ce pouvoir. Les conditions légales ne sont pas réunies.
Ah oui? Je ne suis pas très au fait des subtilités de procédure. J'informerai ce matin le premier consul des événements de la nuit. Souhaitez-vous lui transmettre un message?
Que je demeure son humble et fidèle serviteur.
Il en sera ravi.
Le matin, Savary se rend à Malmaison, la résidence de Bonaparte et de sa femme Joséphine.
À quelle heure devons-nous aller aux Tuileries?
J'ai convoqué Talleyrand ici. Nous irons après. Je t'enverrai chercher. Ah, ça doit être lui qui arrive. Va donc te préparer.
Non, c'est Savary.
Madame, monsieur le premier consul.
Eh bien, monsieur, vous faites une drôle de tête. Vous êtes bien pâle.
C'est vrai, Savary. Que se passe-t-il? Allez-y parler, je n'ai pas de secret pour ma femme.
Je suis venu vous informer que l'ex-duc d'Enghien a été exécuté cette nuit.
Ah.
Comment? Exécuté? Mais c'est impossible.
La commission a été unanime.
Unanime.
Comment cela est-il possible?
Madame, il est mort ce matin. Avec beaucoup de courage, je suis forcé d'en convenir.
Mais pourquoi une telle hâte?
Eh bien...
c'est de ta faute.
Qu'est-ce que tu dis? La commission a jugé seul. Il a donc reconnu ses crimes.
Son hostilité au gouvernement était marquée par la haine. Il allait reprendre les armes contre la France.
Il a avoué pour Cadoudal?
Pas clairement.
Il a avoué ou pas?
On ne peut pas dire qu'il ait avoué.
Il a nié? Ce n'était pas lui, le prince qui l'attendait?
Il n'a pas formellement reconnu les
faits. Il a nié! Il ne faisait pas partie du complot, ni celui-ci, ni un autre.
C'est vrai, Savary? Vous avez le jugement et le compte-rendu des interrogatoires?
Ils sont ici.
C'est un meurtre.
Ne dis pas n'importe quoi. Je vais regarder cela de plus près. Va plutôt te préparer.
Je n'irai pas aux Tuileries.
Elle fait son métier de femme. Comment lui reprocher de ne rien comprendre à nos affaires? Mais tout se calmera et elle comprendra que cet événement n'est pas une maladresse. Bien. J'attends Talleyrand. Tu le feras entrer quand il arrivera.
À vos ordres.
Savary.
Oui?
Nous sommes contents de vous.
Le duc d'Enghien a nié être le prince que Cadoudal attendait. Il a demandé à me rencontrer. Savary a clairement fait un excès de zèle. Croyant accomplir ma volonté, ce lourdeau me met dans l'embarras. C'est un bon soldat, mais pas un politique. Enfin, Son dévouement est tel que je ne peux pas le blâmer. Cette exécution pourtant me fragilise. Il faut que je contre-attaque. Ma position n'est pas idéale, mais je peux reprendre l'avantage et en tirer profit.
Savary vient de m'informer. Quelle nouvelle ! Les choses sont allées bien vite.
Voilà une mort qui me rend odieux, non ?
Aux yeux des Bourbons, certainement, mais qui en France connaissait le duc d'Enghien ?
Voilà une remarque judicieuse, Talleyrand. De toute façon, ce qui est fait est fait. Même si le motif pour lequel le duc d'Enghien a été condamné n'est pas celui pour lequel il a été enlevé, la commission a jugé souverainement.
D'une façon ou d'une autre, en prenant les armes en intelligence avec l'Angleterre, le duc complotait contre la France et entrait dans cette conspiration. Il apportait le trouble en France, contre la France et son peuple.
Vous avez raison. Nous avons protégé les plus hauts intérêts de la nation. Les Français ne veulent pas du retour des Bourbons, ces sicaires de l'Angleterre. Mes soldats et le peuple m'ont plébiscité pour que j'exerce le pouvoir à vie, que je puisse également désigner mon successeur et présider le Sénat. Le peuple me fait confiance. Ne suis-je pas légitime ?
Vous l'êtes, assurément.
Nous avons porté les idées de la Révolution à travers toute l'Europe et libéré tant de peuples contre autant de tyrans. Nous avons bâti un empire de liberté. Mais rien n'est encore achevé.
Vous voulez dire que vous avez bâti un empire sans empereur ?
Ne sentez-vous pas, partout dans le pays, un désir que le premier consul assume un pouvoir plus absolu ?
Les Français sont attachés à la figure du monarque. Ils l'aiment. Et tout retour en arrière avec les Bourbons est désormais impossible.
Aux Tuileries, tantôt, je promulguerai le code civil. Qu'est-ce qu'un code civil ? Sinon le nouveau ciment d'un peuple qui s'est battu pour sa grandeur et sa liberté. Mais cette liberté, si fragile, a besoin d'un pouvoir fort pour ne pas succomber aux attaques de ses ennemis. Si le peuple m'élevait à la dignité impériale, nous pourrions construire une dynastie à la légitimité incontestable et qui pourrait libérer l'Europe entière.
Voici un projet digne de vous.
Monsieur le ministre, je crois bien que le duc d'Enghien, sans même le vouloir, aura rendu un grand service à la France.
Le 21 mars 1804, jour même de l'exécution du duc d'Enghien, Bonaparte promulgue le Code civil qui couronne 4 années d'un travail titanesque et pose les bases de la France moderne. Par ailleurs, conscient que les formes légales du procès du duc d'Enghien n'ont pas été respectées, il fait réécrire entièrement son procès-verbal. Faisant fi des critiques face à cette exécution si brutale, « c'est plus qu'un crime, c'est une faute », aurait commenté Fouché, Bonaparte fait imprimer et distribuer les documents du procès à 50 000 exemplaires. Renforcé grâce à cette affaire, le premier consul, plus puissant que jamais, apprend le 18 mai 1804 que le Sénat a proclamé le gouvernement de la République est confié à un empereur. Un mois plus tard, le 25 juin, le chef Chouan Cadoudal est mené à l'échafaud. Jusqu'à la toute fin de sa vie, Napoléon Ier assumera la nécessité de l'exécution du duc d'Enghien via un codicille ajouté à son testament 20 jours avant de mourir sur l'île de Sainte-Hélène.
J'ai fait arrêter et juger le duc d'Enghien parce que cela était nécessaire à la sûreté, à l'intérêt et à l'honneur du peuple français, lorsque le comte d'Artois entretenait de son aveu 60 assassins dans Paris. Dans une semblable circonstance, j'agirai à nouveau de même.
Bonaparte et l'exécution du duc d'Enghien de Jean-Baptiste Sabiani. Avec Bonaparte, Gabriel Dufay, le duc d'Enghien, Thomas Durand, Savary, Johann Weber, Talleyrand, Didier Brice, le général Hulin, Olivier Constant, Joséphine de Beauharnais, Hélène Chevalier, le général Harel, Baptiste Roussillon, bruitage Sophie Bissantz, prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Bastien Varigaud, assistante à la réalisation Aurélie Miremont, réalisation Mélanie Pécla.
France Inter. Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Emmanuel de Varesquiel, le duc d'Enghien, donc, a été exécuté le 21 mars 1804, lorsque Cadoudal avait avoué qu'il attendait l'arrivée à Paris d'un prince français pour exécuter donc son complot contre Bonaparte. Est-ce qu'on a vraiment pensé que ce prince était le duc d'Enghien, ou est-ce qu'il n'a servi que de bouc émissaire?
Il est probable que Bonaparte l'a pensé, Fouché ne le croyait pas, et Réal, qui était son adjoint, ne le croyait pas non plus, Talleyrand non plus d'ailleurs. Il est probable que personne n'était dupe, mais que pour des raisons politiques et pour des raisons d'État, et comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être pour des raisons de vengeance personnelle, on met la main sur Enghien tout simplement parce qu'il est à portée de main.
Oui, c'est ça, il est juste de l'autre côté de la frontière.
Absolument, ce qui n'empêche pas une violation de frontière et une violation du droit par la façon dont Enghien a été jugé, expédié en une heure par un tribunal, une commission militaire.
Oui, tout ça a été préparé d'avance.
Ça ressemble singulièrement au tribunal révolutionnaire de la terreur. Cette double infraction au droit, le droit international d'un côté... Et le droit français de l'autre, s'explique pour des raisons politiques. Il s'agit de faire un exemple. Ceci, au fond, et j'en reviens à cette phrase que l'on prête sans arrêt à Fouché, c'est plus qu'un crime, c'est une faute, que probablement il n'a jamais prononcée, dans la mesure même où toute l'affaire va dans le sens de ses intérêts. Au fond, cette affaire du complot Cadoudal, Moreau, et auquel on associe Enghien, d'abord pose Bonaparte comme une victime des tentatives d'assassinat anglo-royaliste, premièrement. Et deuxièmement, par la répression qui est exercée sur le duc d'Enghien, par ce jugement rondement expédié, il compromet Bonaparte vis-à-vis des Bourbons et, dans un certain sens, coupe les ponts entre le régime consulaire qui deviendra bientôt impérial. Au fond, c'est la véritable phrase de Fouché, c'est que le marchepied qui va servir à Bonaparte pour devenir Napoléon et qui va le conduire à l'Empire, c'est le cadavre du duc d'Enghien. C'est le fait que Bonaparte, alors qu'il n'était pas compromis avec la terreur et avec la révolution, malgré son amitié pour le frère cadet de Robespierre, va littéralement, par le sang, se compromettre vis-à-vis de la branche aînée des Bourbons et donc couper les ponts avec la famille des Bourbons, et on s'achemine vers l'Empire. L'assassinat d'Enghien, c'est le 21 mars 1804, et la proclamation de l'Empire, c'est le 20 mai 1804.
Ah, c'est tout de suite après.
La cheville ouvrière de cette proclamation de l'Empire héréditaire, c'est Fouché.
Pourquoi est-il nécessaire de tuer un prince de sang, donc de se mettre dans cette filiation de la Révolution, pour devenir empereur, finalement? C'est une espèce de retour à la monarchie aussi, c'est assez bizarre tout ça.
La République est née de l'exécution de Louis XVI, place de la Révolution, le 21 janvier 1793, dans l'esprit des révolutionnaires au service du consulat, à commencer par Fouché, des conventionnels régicides, l'Empire ne pouvait exister qu'après une rupture symbolique et réelle, une rupture politique, à travers l'exécution d'un prince du sang, et ça a été le duc d'Enghien, tout simplement, encore une fois, parce que on pouvait lui mettre la main dessus. Et oui, évidemment, mais... Talleyrand, qui va prendre un peu le train en marche, va jouer les filles de l'air, dans un certain sens, et organiser les rideaux de fumée qui vont faire qu'une fois de plus, il va passer pour blanc comme neige sous la Restauration et échapper à la vindicte royaliste qui va s'exercer, qui aurait pu s'exercer contre lui à partir de 1814.
Cette exécution du duc d'Enghien, est-ce qu'elle a soulevé une vague d'indignation en France ou en Europe?
Alors, ce qui a surtout soulevé l'indignation en France, c'est le procès de Moreau, qui était très populaire, plus que le duc d'Enghien. Moreau a tiré la sympathie, et ça explique en grande partie pourquoi, au fond, il a eu droit à une condamnation de voleur de mouchoirs, comme l'on disait à l'époque, 2 ans de prison, qui seront convertis en exil. L'émotion, elle est là, elle est du côté de Moreau. Par contre, en ce qui concerne
le duc d'Enghien,
l'émotion est générale en Europe, dans les différentes monarchies et empires, en particulier en Russie. On fait dire des messes à la mémoire du duc d'Enghien partout en Europe, et ça explique en peut-être en partie l'intervention de la Russie dans cette coalition qui va finir par être défaite à Austerlitz en décembre 1805 auprès de l'Autriche et de l'Angleterre.
Vous l'évoquiez...
Donc il y a des conséquences diplomatiques importantes.
Vous l'évoquiez, Manuel de Varesquiel, après la Restauration, tout le monde va se dire que c'était affreux, que ce duc d'Enghien ait été exécuté. On va même voir un personnage assez surprenant, vous l'évoquiez, Réal, le conseiller d'État qui était en charge de l'enquête sur le complot de Cadoudal. Lui, il affirmera s'être endormi très tôt cette nuit-là, la nuit donc de l'exécution du duc d'Enghien, et qu'il était arrivé trop tard à Vincennes et que le duc avait été exécuté entre-temps sans qu'il n'en sache rien.
C'est ça. Ils vont tous essayer de trouver des alibis pour se défaire de cette affaire un peu compromettante. Certains s'en sortiront très bien, je vous l'ai dit, comme Talleyrand, mais d'autres s'en sortiront beaucoup moins bien. Caulaincourt, par exemple, Savary, Murat, tous s'en sortent sous la Restauration avec plaies et blessures, si j'ose dire.
Et Joséphine de Beauharnais, on l'a entendu dans la fiction, être assez surprise, même choquée par la mort du duc d'Enghien.
Elle a plaidé la cause du duc d'Enghien, le frère aîné de Bonaparte, Joseph Bonaparte aussi, et elle va également plaider la grâce d'un certain nombre de conjurés au procès Cadoudal de mai qui va se dérouler un mois plus tard, en mai 1804, et elle va sauver un certain nombre de royalistes, en particulier Polignac et le futur duc de Rivière, qui étaient emprisonnés et qui vont être graciés, en partie grâce à l'intervention de Joséphine.
Sous la Restauration.
Joséphine avait des acquaintances royalistes, comme vous le savez, par son premier mari Beauharnais, même s'il avait adhéré à la Révolution française. Et Joséphine, notamment du côté de la radiation des émigrés, sous le consulat, joue un peu les intermédiaires entre les milieux d'émigration d'un côté et Bonaparte et le gouvernement consulaire de l'autre.
Ce qui doit énerver profondément Napoléon.
Est-ce qu'il en était énervé? Au fond, il accepte, il se sert de Joséphine, précisément parce qu'elle joue ce rôle d'intermédiaire et que la politique de Bonaparte, c'est la réconciliation des Français et c'est l'intégration des royalistes au système impérial, par le système de la cour, par les places, par l'armée, par la justice. Donc au fond, dans un certain sens, Joséphine lui sert un peu d'alibi.
Sous la Restauration, le duc d'Enghien va devenir un martyr de la cause monarchique. Louis XVIII fait procéder au transfert de ses cendres. Donc il est déterré du fossé de Vincennes, où il avait été enterré à la hâte. C'est transfert de ses cendres dans la Sainte-Chapelle de Vincennes en 1816. On lui construit un
magnifique cénotaphe qu'on peut toujours voir.
Oui, qui se trouve pas dans
la chapelle même, mais juste dans la pièce annexe du cœur de la chapelle, qui est absolument magnifique. Voilà, on est dans ce mouvement-là, si vous voulez, des messes expiatoires, qui est un mouvement récurrent dans les premières années de la Restauration.
Et pourquoi est-ce que Napoléon, en 1821, à Sainte-Hélène, juge-t-il nécessaire de rajouter ce codicille qu'on a entendu, codicille à son testament? Donc, on n'est que moins de 3 semaines avant sa mort, il est à Sainte-Hélène. Pourquoi est-ce qu'il pense encore au duc d'Enghien? Est-ce qu'il a un sentiment de culpabilité?
Au contraire, je ne pense pas qu'il se soit jamais senti coupable de cette exécution du duc d'Enghien. Il a pensé qu'elle était nécessaire pour des raisons d'État. Et je pense que la deuxième raison qui explique ce fameux codicille, c'est que Bonaparte, Napoléon, à Sainte-Hélène, organise la construction de sa légende comme père de la nation, ce qu'il n'a pas été, puisqu'au fond, il a été conquérant, et il était plutôt pour une Europe française que pour les nationalités. Mais à travers l'expansion des droits de l'homme et de la philosophie des Lumières, ce sentiment national va germer un peu partout en Europe. Et au fond, à travers le mémorial de Las Cases, de Sainte-Hélène, Napoléon construit cette légende de la naissance de la nation dont il serait le père. Et la justification qu'il donne à l'exécution du duc d'Enghien entre dans cette construction même. Donc il y a une explication politique et il y a certainement une explication personnelle. Cet assassinat, entre guillemets, cette exécution, était nécessaire d'abord à la survie du régime et à sa propre survie, mais en même temps pour des raisons politiques, car l'Empire est proclamé au nom de la République.
C'est quand même assez paradoxal.
C'est une République impériale.
Merci beaucoup Emmanuel Varesquiel de nous avoir rappelé cette page sombre de notre histoire. Merci également à Audrey Ripouille qui a réalisé cette émission, assistée de Frédéric Martin, à la technique Marie Potier. Pour en savoir plus, je conseille la lecture de vos biographies, Emmanuel Varesquiel, donc d'abord Fouché, Les silences de la pieuvre, ainsi que Talleyrand, Le prince immobile. Les deux sont édités chez Talendier et disponibles en collection texto. Les deux livres abordent longuement d'ailleurs l'affaire du duc d'Enghien. Et plus récemment, Emmanuel Varesquiel, vous êtes l'auteur de Jeanne du Barry, une ambition au féminin, également publiée chez Talendier. C'est la fin pour aujourd'hui de Temps en emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement d'ambiance, nous reviendrons sur une affaire qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, a à la fois effrayé et passionné les Français, l'affaire Landru. On découvrait qu'un certain Henri Désiré Landru avait, pendant la guerre, séduit un nombre considérable de femmes célibataires. Afin de les escroquer, il les avait assassinées et s'était débarrassés de leur corps dans le four de sa maison de campagne. L'affaire Landru, c'est dimanche prochain à 21h sur France Inter.